Philosophie première, Saint Jodard, 25 avril 1985.
Ajoutez à ce que j'ai pu vous dire l'autre jour à propos de la quantité, le lien très particulier entre cette forme neutre. Il y a une espèce de neutralité dans la quantité, une juxtaposition, une visibilité, une forme tout à fait différente de la qualité, n'est-ce pas ? La qualité n'est jamais neutre. Tandis que le domaine de la quantité a quelque chose de neutre, justement parce que elle n'est pas la qualité, elle est une attente à un achèvement. Elle est une forme potentielle, donc indéterminée. Ce qui est indéterminé est neutre. Une neutralité. Et il y a une parenté curieuse, une espèce de complicité entre la quantité et l'imagination. Et ce serait intéressant à noter ça, et à voir. Alors psychologiquement, vous voyez là, on entrerait dans des perspectives très particulières pour tous ceux qui voudraient comprendre ce qu'est le domaine de l'imaginaire. L'imaginaire est dans le domaine psychologique ce que la quantité est dans le domaine physique. Vous voyez, respectez l'analogie. Mais il y a quelque chose qui est curieux et intéressant à développer. Je vais simplement dire un tout petit mot pour que vous voyez bien, parce que je crois que c'est important. Étant donné que c'est si difficile à saisir ce que c'est que la quantité. C'est vrai, la qualité, ça se saisit immédiatement, la lumière. C'est ce que c'est. Et on est toujours émerveillé. Et tous les matins, ça recommence. Et c'est jamais la même chose. Chaque matin, la lumière est différente de la veille. Et c'est pourtant toujours la même. C'est très curieux. Tandis que dans la quantité, c'est uniformément la même chose, comme c'est ennuyeux. Ça engendre l'ennui, la quantité. Il n'y a rien de plus ennuyeux. C'est pour ça que je ne veux pas m'attarder trop sur la quantité, vous comprenez bien, c'est très ennuyeux. C'est uniformément, c'est quelque chose qui uniformise, c'est le domaine de l'univocité. C'est curieux. Et c'est vrai, c'est le domaine, ça fonde l'univocité. L'univocité est fondée dans la quantité. La qualité, c'est l'analogie. Et la quantité, c'est le domaine de l'uniformité, de l'univocité. C'est un domaine de neutralité. Neutralité se fonde sur la quantité. Alors, il y a un domaine très curieux entre la quantité et l'imaginaire qui se comprend tout de suite quand vous essayez de comprendre la différence entre les sensibles propres et les sensibles communs. Nous l'avions déjà vu, je le reprends ici, nous l'avions vu du côté de la qualité, je le reprends ici. C'est que le propre d'une forme imaginaire, un rêve, c'est pas ennuyeux les rêves, c'est très ennuyeux. Parce que c'est le domaine de la quantité qui domine. Tandis que la réalité, c'est pas du tout le rêve. Il y a ce domaine très curieux, c'est que dans vos expériences artistiques, et plus vous êtes artiste, plus vous le sentez. Dans le domaine artistique, les sensibles propres sont mis en pleine lumière. Et les sensibles communs sont uniquement le support. C'est nécessaire, il faut bien. Mais c'est pour le support, c'est pour la mise en valeur des sensibles propres. Quelquefois, il faut une quantité énorme pour la mise en valeur d'un point. C'est artistique, au point de vue artistique, on voit très très bien ça. Donc, les sensibles communs sont au service des sensibles propres, pour la mise en valeur. Dans le rêve, c'est l'inverse, c'est-à-dire dans le rêve, dans l'image. Mais c'est dans les rêves qu'on saisit le mieux l'image, hein, les rêves éveillés ou les rêves tout court. C'est dans les rêves qu'on saisit mieux ce domaine de la représentation qui est l'image, où les sensibles communs passent avant les sensibles propres. Il y a un renversement. Et c'est très important de le sentir et de le saisir, ça. Parce que ça explique des quantités de choses. Alors qu'il y a toujours les sensibles propres, la lumière. C'est ça qu'on comprend mieux dans les sensibles propres. C'est la lumière. Alors, sensibles propres, sensibles communs. Alors, prenez les sensibles communs, la petite musique. Les couleurs sont les sensibles propres, hein. Mais la figure. La figure, la quantité, la grandeur. Alors, il y a cet ordre-là, vous comprenez. C'est que les sensibles communs sont au service des sensibles propres. Les sensibles propres sont la pointe, l'indivisible. Tandis que là, je suis dans le divisible, je suis dans quelque chose qui est le support. C'est pour ça que de temps en temps, il y a comme une espèce de mise entre parenthèses. Si on pouvait mettre entre parenthèses les sensibles communs pour que les sensibles propres soient l'état pur, hein, c'est une espèce de désir d'aller le plus loin possible dans la mise en lumière des sensibles propres. Et c'est vrai, il y a c'est peut-être une tentation du reste au point de vue artistique, hein, d'un purisme étonnant de la mise en valeur uniquement de la lumière pour que les sensibles communs soient le moins lourd. Ils sont entièrement ordonnés à. Eh bien, quand il s'agit d'image, vous avez l'inverse. Les sensibles communs sont premiers, les sensibles propres sont relativisés. Très curieux. C'est là le problème. Qui montre très bien la parenté très forte entre les sensibles communs et le domaine de la représentation. Tandis que les sensibles propres sont du domaine de la signification. Donc là, j'ai beaucoup, beaucoup à dire au point de vue. Alors, on rentrerait dans le point de vue critique. Hein. C'est un des aspects très importants de la critique, ça. C'est de bien comprendre la différence entre le domaine de la représentation. Le domaine de la représentation. C'est justement un domaine fictif. Tandis que le domaine de la signification, c'est toujours lié au réel. La représentation, pas. Et c'est les sensibles communs qui l'ont emporté. Alors vous voyez, par le fait même, le domaine de la quantité, c'est pas la quantité pure, c'est une quantité connue, la représentation. Le rêve, c'est une quantité connue, mais c'est la quantité qui l'emporte sur les sensibles propres. qui explique l'enlisement du domaine imaginatif sur le domaine sensible. Alors vous voyez, ce serait par là qu'on pourrait expliquer l'angoisse. L'angoisse métaphysique. C'est l'enlisement du domaine quantitatif sur le domaine sensible. Et ce serait sûrement, je suis persuadé au point de vue, essayer de comprendre ce que doit être la manière dont nous pouvons essayer de, philosophiquement, il faut réfléchir sur ce que c'est que l'angoisse au point de vue psychologique et comprendre comment l'image dans le domaine de la représentation fait que le sensible commun l'emporte sur les sensibles propres. Au bout d'un certain temps, quand les sensibles communs ont tout pris, vous êtes dans l'enlisement. Vous êtes enlisé par le nombre, enlisé par la quantité, par la grandeur, par la figure. Vous êtes pris par ça, vous ne pouvez plus en sortir. Il n'y a pas de porte de sortie. Et c'est ça, être enlisé. Et ça va toujours plus loin. Ça va plus loin dans tous les domaines des dimensions. Hein. C'est le domaine des dimensions. Hauteur, profondeur, largeur. Et tout, les dimensions, c'est les points cardinaux, c'est de l'ordre de la dimension, c'est pas du tout de l'ordre qualitatif. C'est les dimensions, les juxtapositions, tout ce qu'on disait à propos de la gravité, et qui devient alors uniquement ce domaine-là. C'est le domaine de ce qui normalement est second qui devient le premier. Quand le second devient premier, on sait ce que c'est. Il y aurait des tas d'exemples à donner ça. Le premier, ce qui est premier, les sensibles propres, hein, ça s'impose par sa noblesse. Donc, on les saisit immédiatement. On les connaît immédiatement. Ça s'impose par sa propre noblesse. Les sensibles communs, ils sont seconds. Et quand ils sont premiers, vous voyez ce que ça fait. Il y aurait la dialectique hegélienne qui serait très intéressante à voir là. Parce que dans le domaine de la quantité, il ne faut pas l'oublier, c'est le fondement de la dialectique. La dialectique est imaginative. Mais une imagination qui est très rationalisée. Et c'est pour ça qu'on croit que c'est plus l'imagination. Mais c'est l'imagination qui s'empare même du raisonnement et qui fait un enlisement. La dialectique enlise l'intelligence d'une façon telle qu'il n'y a plus de contemplation. Dans un domaine dialectique, il n'y a plus de contemplation. Donc c'est l'enlisement complet. On est complètement empêtré dans la dialectique. On croit ne pas l'être parce qu'on croit dominé par le point de vue de la dialectique, mais en réalité, on est dominé par elle. Et alors, parce qu'on est dominé par elle, il y a une espèce de... On met le petit doigt dedans et tout est emporté. C'est un engrenage. Un engrenage qui fait qu'on est saisi et pris uniquement par ce point de vue-là. L'ordinateur à la place du jugement. Où il n'y a plus de contemplation, il n'y a plus qu'indéfiniment. Un monde qui devient uniquement un monde dialectique. C'est assez affolant quand on essaie de penser. Et on voit très bien comment on est pris comme une espèce de gouffre. Ça, c'est le domaine imaginatif. On est pris dans un gouffre qui vous emmène indéfiniment. Et il n'y a plus de point de repère. Parce que tout est pris dans un raisonnement imaginatif. Le véritable raisonnement a quelque chose qui est au-delà du raisonnement, le jugement. Il y a un point de départ et un terme. On sait d'où on part. Dans la dialectique, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de point de départ, parce que tout est relativisé par la dialectique. Alors, comme tout est relativisé par la dialectique, vous êtes dans un monde de pure relativité. Le domaine de la pure relativité, c'est le domaine imaginatif de la quantité. la pure relativité. C'est comme s'il n'y avait plus de qualité. Parce que le propre de la qualité, c'est justement de ne pas être relatif, c'est de s'imposer. Mais de s'imposer comme la qualité s'impose. Hein. Vous ne me comprenez pas, tant pis. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je suis. C'est le propre de la qualité, ça. Tandis que la quantité n'existe que quand on la connaît. Elle n'est première que dans la mesure où on lui donne ce sort d'être première. Elle vous enlise. Il y a une espèce de complicité très curieuse du domaine de la quantité par rapport à l'imaginaire et qui fait qu'à ce moment-là, vous lui donnez un sort qui fait qu'elle devient première alors qu'elle est toujours seconde. Quand on est second et qu'on vous met premier, vous êtes très fier. Hein. Et bien, il y a le domaine de la quantité qui est très fier de passer première. C'est curieux, cette chose-là. Et ça, c'est à l'intérieur de l'imagination. Et ça explique comment le domaine de la dialectique, quand on commence, on ne peut plus en sortir. À ça, il faut y réfléchir, parce que je crois que c'est la clé, c'est la quantité. C'est assez monstrueux. C'est très beau, la quantité, quand elle est seconde. Mais quand elle devient première, l'esclave devenu roi. C'est pas drôle. Dans le sens profond. Parce que il ne veut jamais plus démordre. Parce qu'autrement, il deviendrait esclave. Si de fait, alors, le domaine quantitatif, quand il commence à s'imposer, on ne voit plus comment on peut le remettre à sa place. C'est pour ça qu'un monde qui part du côté de la quantité, vous voyez, la vision de Guénon, où il y a quelque chose de juste, hein, un monde qui part sur le domaine de la quantité, on ne voit plus comment on peut rattraper ça. Une pensée qui commence à être dialectique, on ne voit plus comment on peut la rattraper. Et l'art disparaît. Le véritable art disparaît, parce que les qualités sensibles disparaissent, sont en dessous, relativisées par le point de vue de la quantité. Alors, il faut essayer de saisir à la fois ce que représente le domaine de la quantité au point de vue proprement philosophique, ce domaine de quelque chose qui est second, une forme qui est toujours une forme seconde. C'est pour ça qu'elle est potentielle et divisible. Elle n'est jamais première. Très curieux, ça s'appelle quelque chose qui est toujours second. C'est ennuyeux. Parce que c'est jamais pour soi. C'est une drôle d'invention, la quantité. C'est une très drôle d'invention. Dieu a inventé la quantité. Dans un regard de sagesse, je peux dire Dieu a inventé la quantité. Je la constate. Dieu a inventé la quantité, il l'a inventé pour quelque chose d'important, les intermédiaires. C'est un domaine d'intermédiaires entre la matière et la qualité. Et l'homme fait que ce qui est second devient premier. Et pourquoi l'homme fait-il ça? Pourquoi cette espèce d'exaltation du domaine de la quantité? Pourquoi cette espèce de complicité avec l'imaginaire? Parce que c'est une complicité. Pourquoi de fait? Si on essaie de comprendre, une fois qu'on a saisi ce rouage, que ce qui est second devient premier, et que ça prend une telle importance, comment se fait-il que le conditionnement, quelque chose de si ennuyeux, étouffe la finalité qui est quelque chose de si grand? C'est quand même ça, c'est ça qu'on voit. Puisque la finalité, elle ne peut être atteinte que par les sensibles propres. Si vous quittez les sensibles propres, vous n'avez plus la possibilité d'atteindre les finalités. Ça, on reverra, mais on comprend. Puisque les sensibles propres seuls nous permettent de saisir le jugement d'existence. Si j'abandonne les sensibles propres, je ne peux plus saisir le point de vue du jugement d'existence et je suis dans ce monde d'indifférence. Comment se fait-il que ce qui est second devient premier avec la complicité de notre imaginaire? C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est une manière pour nous de saisir ce que nous vivons actuellement. Parce que je crois que c'est ça qu'on vit actuellement. On vit actuellement ce domaine du sensible commun qui l'emporte sur le sensible propre. Et on verrait ça même dans des quantités de choses dans l'art. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, parce qu'au contraire, quelquefois, il y a des choses géniales qui apparaissent à partir de là. Une remise en lumière de certains sensibles propres dans ce domaine où le sensible commun l'emporte. Alors, pourquoi cette complicité? Je crois que on a saisi la dernière fois que la quantité était connue par le point de vue de la mensuration. C'est l'homme qui mesure. Vous voyez, alors derrière, il y a une complicité d'orgueil. On veut dominer. Et on domine la quantité. Vous ne dominez jamais la qualité. Vous ne pouvez pas. Elle s'impose à vous. C'est comme le jugement d'existence. Vous ne dominez pas. Vous l'affirmez, vous le reconnaissez. Vous reconnaissez l'autre qui s'impose à vous. Comme c'est ennuyeux de reconnaître que l'autre s'impose à nous. On voudrait tellement le façonner à notre figure, à notre image. On voudrait tellement, voyez, le dominer, le relativiser. Alors, le domaine de la quantité relativise tout par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, non, disons pas l'homme, par rapport à l'homme dans sa domination qui mesure. Et je crois qu'en définitive, c'est ça qui explique comment on veut faire vivre l'homme dans un rêve pour le manipuler comme on veut. Une fois que vous êtes dans le domaine quantitatif, on peut vous manipuler comme on veut. Quand vous êtes dans le domaine de la qualité, on ne peut plus vous manipuler, parce que vous êtes sur quelque chose qui s'impose à vous, et qui se donne à vous. Tandis que dans le domaine propre de la quantité, quand c'est la quantité qui l'emporte, vous pouvez être manipulé. Vous êtes relatif. Non pas à la finalité, vous êtes relatif à la mesure. Vous êtes relatif à l'homme qui mesure. Et la qualité sensible, le sensible propre, est relatif à elle. Il faut essayer de comprendre un peu ce domaine-là, pour saisir comment l'imaginaire commence à tout prendre et vous mettre dans cette espèce d'engrenage. Alors, ce serait intéressant de se demander, voyez, si toujours pour essayer de comprendre un peu le domaine de notre monde d'aujourd'hui, comment le conditionnement l'emporte sur la finalité, et comment l'homme se trouvera dans une situation limite devant ce conditionnement qui a tout pris. Et le conditionnement prend tout par le domaine de la quantité. Ça ne peut pas être autrement, c'est le domaine de la quantité qui l'emporte sur la qualité. Alors est-ce que ceci explique, la question, est-ce que ceci explique comment la négation devient première par rapport à l'affirmation? Dans la mesure où nous avons déjà souligné que la modernité, c'est la négation par rapport à l'affirmation, la négation première et l'affirmation seconde, alors que normalement l'affirmation est première et la négation est seconde. Donc on retrouve une même inversion. Vous retrouvez une autre inversion ici. Laquelle est première? Laquelle commande l'autre? Parce que je crois que là nous sommes en face des deux grandes inversions, ou des deux grandes perversions. Je ne sais pas comment vous situer. Vous devez constater que c'est les deux grandes inversions, et vous pouvez ensuite dire que c'est les deux grandes perversions. Je crois que ce sont les deux grandes perversions de la vie de l'intelligence. Comment l'intelligence se pervertit. L'intelligence se pervertit en faisant que la négation fasse avant l'affirmation, en faisant que les sensibles communs fassent avant les sensibles trans. Ça, c'est sûr. C'est deux grandes manières de pervertir l'intelligence. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez plus en sortir. C'est la dialectique. C'est la dialectique et Hegeliaise qui prend tout. Et on est saisi dedans, et quand on est saisi dedans, c'est très très difficile d'en sortir. Je ne sais même pas si on peut en sortir, humainement parlant. Alors, qu'est-ce qui serait premier, vous voyez? Qu'est-ce qui serait premier? Est-ce que c'est la négation, parce que la négation est première sur l'affirmation, que les sensibles communs doivent être premiers par rapport aux sensibles propres? Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est très intéressant quand on est en face de deux inversions, il y a un ordre entre les deux, il y a un premier. Alors on pourrait se demander, du côté critique, qu'est-ce qui est plus fondamental? Évidemment, ce qui est plus fondamental, c'est toujours du côté de l'intelligence. Donc, dans l'ordre de nature, ce qui est plus fondamental, c'est que la négation passe avant l'affirmation. Ça, c'est sûr. Là, on est en face de l'intelligence. Mais génétiquement, dans l'ordre psychologique, c'est peut-être l'inverse. Là où je pose un point d'interrogation, je ne conclue pas, mais il faut réfléchir là-dessus. Parce que ce sont des clés qui fassent comprendre tout ce que nous vivons constamment. Génétiquement, je crois que c'est parce que les sensibles communs l'emportent sur les sensibles propres qu'on arrive nécessairement à dire que la négation est première par rapport à l'affirmation. Je crois que c'est par là que nous comprenons comment la négation passe devant. Et vous comprenez pourquoi? Parce que dans le domaine de la quantité, c'est la division qui actue. Or la division, c'est la négation. Quand la division devient première, c'est nécessairement la division. C'est nécessairement la négation. Vous niez en divisant. Diviser pour régner, hein, ce vieux dicton. Diviser pour régner. Qu'est-ce qu'on divise? La quantité. Vous ne pouvez diviser que la quantité, vous ne pouvez pas diviser la qualité. La qualité, ça s'impose à vous. Le domaine du sensible propre, ça s'impose. Vous ne pouvez pas le diviser, il est indivisible, il est en acte. Tandis que la quantité, c'est divisible. Donc là, c'est le domaine où l'homme va s'imposer, va montrer sa marque. Donc c'est bien par le point de vue de l'imaginaire qui fait que le sensible commun devient premier, que progressivement la négation l'emporte sur l'affirmation. Si c'est vrai, c'est très intéressant, vous voyez, parce que ça donne une explication de cette espèce de primat de la négation sur l'affirmation. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Au moins, mettez en parallèle pour y réfléchir. Et ayez toujours cette méthode aristotélicienne de regarder le premier dans l'ordre de nature et le premier dans l'ordre génétique. Hein. Parce que si vous regardez ça uniquement, vous direz non, on peut dire l'un ou l'autre. Attention. Selon l'ordre génétique, je crois que c'est la perversion des sensibles communs qui l'emporte sur les sensibles propres. C'est l'imaginaire. Et selon l'ordre de nature, la perversion la plus radicale, c'est la négation qui l'emporte sur l'affirmation. Et comme toujours, ce qui est plus radical n'est jamais premier génétiquement. Donc, il faut saisir ce domaine-là. Alors, vous voyez comme c'est important dépister la quantité. Il faut la dépister, la quantité, parce qu'elle nous échappe tout le temps, étant donné qu'elle est justement ce domaine si difficile à connaître. Quand quelque chose s'impose, ben oui, la lumière, ça s'impose. Quelqu'un va pas dire qu'il n'y a pas de lumière ce matin. Non, ça s'impose, quoi. Et alors on est plus ou moins sensible à ça, on s'y arrête plus ou moins, mais ça s'impose à nous. Le jugement d'existence, quand on l'a saisi, ça s'impose à nous. On peut essayer de ne jamais le regarder, comme on peut très bien dire « Oui, mais ça c'est subjectif, ça n'a aucun intérêt. » L'artiste sera là pour dire « C'est la seule chose intéressante. » C'est le bienfait des artistes. Dans un monde qui se quantifie, le bienfait de l'artiste, quand il reste un artiste, pas quand il est complice. Il y a des artistes complices du primat de la quantité. Alors, c'est la perversion de l'art, c'est ce qui est pire. Parce qu'il y a des artistes. Que les savants aillent dans le sens du primat de la quantité. Les savants matheux, hein, vous voyez bien, soient dans la complicité du primat de la quantité. Mais c'est normal. S'ils se réveillent comme hommes, ils disent « L'homme ne s'explique pas par les mathématiques. » Il n'y a pas beaucoup de matheux qui disent ça. Il y en a quelques-uns, heureusement. Les grands, les très grands le disent. Mais ceux qui sont dans la vulgarisation, non. Parce qu'ils sont tellement épris par le point de vue quantitatif, par le point de vue mathématique. Alors ils n'ont pas assez de noblesse pour dépasser le domaine quantitatif. Il faut que l'homme y trouve sa finalité, donc découvrir ce que c'est que l'amour, pour dire la quantité, les mathématiques ne peuvent pas expliquer l'homme. Et les mathématiques n'expliqueront jamais l'homme. Ils expliqueront le conditionnement de l'homme, admirablement. On fera des hommes robots. Dans les hommes robots, la quantité est première, les mathématiques règnent, c'est leur sagesse. Et leur sagesse, c'est la sagesse mathématique, parce que c'est le domaine de la quantité. Alors ça, c'est le domaine du robot, c'est extraordinaire. On arrivera à construire des hommes beaucoup plus parfaits que les autres, du côté du conditionnement, beaucoup plus rapides. Ils feront très peu d'erreurs comparativement aux autres. Ils seront d'une utilité absolue, d'une efficacité étonnante. On peuplera un pays de robots dans le domaine de l'efficacité. On pourra arriver à ça. Dès qu'on touche la finalité, on voit que non, c'est pas facile. Vous voyez, réfléchissez là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose de capital que nous touchons au point de vue philosophique. L'ordre entre la quantité et la qualité, l'ordre entre les sensibles propres et les sensibles communs. Et là, quand on est à la source de l'erreur, c'est à la fois très simple. Mais on voit immédiatement, parce que là, on touche quelque chose de très, très fondamental. Alors, il faut essayer de saisir. Donc, complicité entre le domaine de l'imaginaire et de la quantité. Entre le domaine de la quantité et le domaine du conditionnement. Tout ça va ensemble. Voyons maintenant, si vous voulez, quelque chose qui va nous permettre encore d'entrer un peu plus dans ce domaine de la quantité. Les espèces de quantité, ça nous aide, hein, c'est-à-dire regarder la quantité dans sa première division. Quelle est la première division de la quantité? C'est comme ça qu'il faut se poser. Puisque la quantité est connue par la division, il faut regarder le premier moment de la division. C'est quand même important de regarder ça. Donc étant donné le caractère potentiel de la forme quantité, il est nécessaire de considérer ces espèces pour mieux saisir ce qu'elle est. La notion générique de quantité étant par elle-même peu intelligible. Parce que c'est le fondement du genre, la quantité. C'est le fondement de la connaissance univoque. C'est le fondement de l'uniformité. Regardons le premier moment où cette uniformité est brisée. C'est intéressant. Dans la division. Quel est le premier moment de la division de la quantité? Bien, je crois que c'est ce que les anciens ont toujours donné, les deux types principaux de quantité, la grandeur et le nombre. C'est une chose très curieuse, et je crois que c'est vraiment là où on touche la première division, la grandeur et le nombre. La grandeur, c'est-à-dire ce qu'on appellera la quantité continue. La grandeur, la quantité continue, implique la position, tandis que le nombre, quantité discrète, ne l'implique pas. Il n'implique que l'ordre. Alors là, il y a deux choses très, très curieuses et intéressantes à saisir quand il s'agit de la quantité. Nous entrons dans ce domaine de la quantité pour garder le point de vue de la grandeur. Quantité continue. Et puis quantité discrète, comme on dit. On peut dire que discret, c'est autre chose, le nombre. La quantité continue, elle est fondamentale. Elle implique la position. La quantité discrète est plus abstraite. Elle est au-delà de la position. Il va donner le sens à un certain ordre. Il n'y a plus que l'ordre dans le nombre. La quantité continue, vous voyez, est plus enracinée au point de vue métaphysique, dans la nature. La quantité discrète, elle est ennoblie par l'intelligence. La quantité discrète, c'est déjà une quantité qui implique l'apport d'un être de raison. Alors, c'est ici où c'est très curieux. Le nombre comme tel, hein, le nombre implique nécessairement d'être nombré. Donc, implique un nombre. Une quantité discrète, c'est une quantité qui a déjà été divisée. Donc, qui a déjà été mesurée. Si elle a déjà été mesurée, elle implique donc la forme de l'intelligence. C'est l'intelligence qui mesure. L'intelligence seule mesure. Tandis que la quantité discrète, la quantité continue, c'est, j'allais dire, la quantité des absolus. Autant qu'on peut saisir la quantité à l'état pur, hein, parce que la quantité à l'état pur échappe, mais c'est quand même la quantité dans sa, dans son réalisme, dans son aspect existence. La quantité n'existe jamais par elle-même. Elle se fond dans la matière. Et ça, c'est la quantité continue qui, justement, a quelque chose de plus fondamental, de plus primitif. C'est plus primitif, la quantité continue. C'est enraciné dans le point de vue du monde matériel. C'est pour ça que c'est cela qui nous aide à comprendre le mouvement physique. C'est la quantité continue. Il y a des possibilités infinies de transmutation, de changement. C'est le continu. Tandis qu'au contraire, la quantité discrète fait déjà appel à une mesure. C'est déjà élaboré. C'est une quantité qui n'est plus à l'état pur. L'enracinement n'est plus dans la matière, mais dans l'intelligence. Et par l'intelligence, par la mesure, l'être de raison fait la division. La division est un être de raison. L'être de raison est impliqué dedans. Donc la quantité discrète, c'est déjà quelque chose de complexe, c'est pas quelque chose de pur. C'est l'alliance de la quantité et de l'intelligence. Et c'est donné comme quelque chose que nous pouvons nombrer, quoi. Quelque chose qui implique le nombre, qui implique la mesure et qui va impliquer l'ordre. C'est impliqué dedans, et donc il y a déjà l'élaboration de l'intelligence. Et cette élaboration de l'intelligence fait que vous n'êtes plus en présence de quelque chose qui est tout à fait fondamental. Il y a donc un ordre entre les deux, vous voyez bien. Au point de vue métaphysique, hein, je me place au point de vue métaphysique. Entre les deux, la quantité continue et première dans l'ordre de l'existence. Le nombre est second dans l'ordre métaphysique. Mais dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est l'inverse. Nous retrouvons toujours ces deux aspects. Dans l'ordre de l'intelligibilité, le nombre est plus intelligible que la grandeur. Parce qu'il y a déjà l'apport de l'intelligence. Et s'il y a déjà l'apport de l'intelligence, il y a donc quelque chose qui est déjà beaucoup plus élaboré. C'est plus intelligible. Donc, dans l'ordre critique, alors là, ce serait aussi très curieux, dans l'ordre critique, le nombre est premier, dans l'ordre de l'intelligibilité, et la grandeur est seconde. Vous voyez, là encore, la différence entre le regard philosophique par rapport à ce qui est et le regard critique. Si la critique est première par rapport à la métaphysique, vous voyez tout de suite, et c'est toujours dans le domaine de la quantité que se trouve toutes les confusions. C'est quand même très curieux. Parce qu'on retrouve ici quelque chose à la première division de la quantité. Quantité continue, quantité le nombre. C'est classique. Mais d'habitude, on les regarde uniquement comme ça. Il y a deux espèces de quantité, ce que fait Aristote dans les prédicaments. Il dit il y a deux espèces de quantité. Très bien. Essayons de réfléchir sur cette première division de la quantité. Parce que c'est la première division de la quantité. Dans cette première division de la quantité, on voit quelque chose qui apparaît d'extrêmement intéressant. La quantité fondée sur la matière, la quantité continue, ne peut pas se séparer de la matière. C'est pour ça qu'elle est indéfiniment divisible. Indéfiniment divisible. Et elle est indéfiniment divisible à cause de la matière. Je peux la diviser tout le temps, la grandeur. Tandis que le nombre, il est déjà divisé. Donc, il ne s'appuie plus directement sur la matière. C'est pour ça qu'on pourra parler d'un nombre transcendantal. Le nombre peut être transcendantal. Pas la quantité continue. La quantité continue, c'est impossible de parler de la quantité. Parler de nombre, oui. Les théologiens parleront du nombre des anges. Ils ne sont pas, il n'y a pas de quantité en eux, on ne peut pas les nombrer. Et pourtant, vous les nombrez. Et vous transportez la notion du nombre, vous transportez la notion de l'ordre jusque dans la très sainte Trinité. C'est invraisemblable. Pas la quantité. On va dire que le Père est plus gros que le Fils, parce que non, ça ne va plus du tout. Ça devient quelque chose de monstrueux. L'ordre, ah oui, c'est très bien. Oui, un ordre dans la très sainte Trinité. Mais n'oubliez pas que l'ordre, ça vient du nombre. Et le nombre, il vient de la quantité. Comme c'est curieux. Cette élaboration qui se fait entre le point de vue de la quantité continue et la quantité et le nombre. Le nombre, ça joue un rôle extraordinairement important chez les intellectuels. Le nombre. L'ordre. Les gens de droite, l'ordre, avec un grand O, n'est-ce pas? L'ordre, il n'y a rien au-dessus de l'ordre. Hein? Vous restez dans le nombre. Vous n'avez pas encore atteint la qualité. Et vous émettez l'ordre au-dessus de tout. Non, il y a la qualité. Au nom de l'ordre, on peut faire du massacre. Il y a la qualité. C'est curieux, hein, c'est très curieux qu'on touche dans l'ordre, dans quelque chose de très important à saisir. Que dans le point de vue métaphysique, le point de vue de la grandeur est plus lié à l'être. Autrement dit, dans l'ordre métaphysique, on ne cache pas ce qu'est la quantité de l'être. C'est la grandeur. C'est dans l'ordre de la grandeur que divisible par ailleurs. Tandis que le nombre, j'allais presque dire, hein, c'est une quantité formalisée. C'est une quantité déjà abstraite. Donc ennoblie par l'intelligence. C'est une quantité ennoblie par l'intelligence. monstrueuse dans le domaine du nombre où justement l'intelligence va se servir de la quantité pour donner quelque chose, donner le change. Alors, dans l'ordre métaphysique, la grandeur est première et le nombre est second. Dans l'ordre critique, le nombre est premier et la grandeur est seconde. Dans l'ordre de l'intelligibilité. Montre comment, là encore, c'est difficile de bien comprendre le domaine propre de la quantité, puisque, de fait, l'intelligence, alors je dis bien ici l'intelligence, mais l'intelligence par l'imaginaire va pouvoir ennoblir la quantité. Par le nombre. Le nombre, c'est la noblesse de la quantité. C'est ce qui donne à la quantité quelque chose qui l'ennoblit. Tandis qu'au contraire, quand vous êtes en présence du continu, vous êtes obligé de reconnaître c'est fondamental, c'est quelque chose qui... C'est par là que vous êtes dans l'enlisement. Vous êtes enlisé par le nombre. Vous pouvez en avoir peur. Alors, ce serait peut-être très intéressant de voir les deux espèces d'angoisse, celle du nombre et celle de la grandeur. C'est deux angoisses différentes. L'enlisement de ce qui n'est pas ennobli, qui est le divisible, et le nombre. C'est différent. Tu restes au point de vue de nos rêves et nos cauchemars, on sait très bien que c'est très différent. Il y a des enlisements qui vous empêchent